Bonjour tout le monde. Je m'appelle Christine Fasser, je suis socio-anthropologue. J'ai travaillé notamment sur la question, donc je suis spécialiste des risques et des catastrophes. J'ai travaillé pendant 8 ans sur les conséquences sociales et politiques de l'accident de Fukushima avec Reiko Hasegawa qui est présente. Et donc j'étais à l'époque à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et j'étais très heureuse de retrouver depuis quelques années la liberté académique au sein du LATS, un laboratoire de l'université Gustave Eiffel, où je travaille toujours sur les risques et sur les problématiques de stockage à long terme. Je suis membre de Global Chance depuis 2 ans et je suis aussi membre du Crisis Lab de Sciences Po. Voilà. Donc cette première table ronde, donc Bernard vous l'a dit, s'intéresse, revient sur les actions et mobilisations contre l'industrie nucléaire, sur leurs succès, leurs échecs et bien sûr sur le rôle de Benjamin Dessus et de Global Chance dans ces mobilisations et ces réflexions. Donc dans cette première table ronde, on cherchera à appréhender d'abord le point de vue historique, la façon dont a évolué le gouvernement de cette technoscience bien particulière dans le paysage français, pour terminer sur les enjeux actuels. Dans ce premier temps, on restera centré sur le cas français, à bien des égards particuliers, mais les aspects internationaux seront évoqués dans d'autres tables rondes, et notamment celles consacrées en fin de journée aux aspects géopolitiques. Alors, le gouvernement du nucléaire, eh bien, si on commence par ça, il a longtemps été réalisé sous le régime du secret, lorsque les décisions se prennent au sein d'arènes restreintes et n'ayant pas à rendre de compte, comme Philippe Simoneau l'a bien montré dans son livre « Les nucléocrates ». Le nucléaire est déjà présenté comme un élément du rayonnement de la France, le terme est de Gabrielle Hecht, lorsqu'elle décrit les premiers pas de l'électronucléaire. Ensuite, dans les années 2000, je vais très vite, hein, bien sûr, c'est juste une présentation de la table ronde, Blondiot et Saint-Omer détectent un tournant participatif pour qualifier le développement de dispositifs qui devraient permettre l'exercice d'une démocratie plus directe et appliquer au monde des technosciences. Un livre fait date, c'est celui de Calon, Lacoume et Barthes, qui promulguent le développement d'une démocratie technique, hein, c'est le titre du livre, qui devrait permettre d'impliquer plus directement les citoyens dans les domaines technoscientifiques. À ce moment-là, le livre de Cézine Topsou, « La France nucléaire, l'art de gouverner une technologie contestée », développe une critique très documentée de ces dispositifs qui font fi des asymétries de pouvoir entre acteurs. Et Dominique Pestre, dans son introduction de l'ouvrage, déclare que l'analyse de Cézine Topsou plaide pour moins de naïveté. Le monde associatif, d'ailleurs, se divise au sujet de ces dispositifs. Faut-il participer, apporter son expertise et sa contre-expertise, ou bien est-il plus judicieux de rester en dehors de ces différents dispositifs de participation qui sont organisés à différents niveaux, aussi bien au niveau local avec les commissions locales d'information autour des installations des INB, des installations nucléaires de base, qu'à un niveau national comme par exemple la CNDP. Dans un cas comme dans l'autre, il me semble que le monde associatif ne peut pas faire l'économie de processus réflexifs sur ce que signifie participer à ces dispositifs au-delà du point de vue porté par les institutions qui encouragent et qui promeuvent ces processus de participation. Donc ces processus, il me paraît intéressant de regarder, et c'est ce que nous allons explorer aussi dans cette table ronde, ce que ces processus participatifs produisent entre co-gestion des risques et domestication de la critique, mais aussi ce qu'ils permettent en termes de production d'éléments, de construction de recours juridiques qui semblent constituer une voie prometteuse encore limitée. En septembre 2022, Global Chance et plusieurs organisations, aux côtés de riverains, ont déposé un recours pour contester la déclaration d'utilité publique du projet de centre de stockage géologique profond, le projet CIGEO. Ce recours a été l'occasion de poser ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, une procédure qui permet de questionner la conformité de ce mode de traitement des déchets par rapport à notre Constitution, notamment en ce qui concerne le droit des générations futures. Donc, je voudrais conclure sur le fait que ce courant participatif, dont on entrevoit les limites, se heurte en outre à un autoritarisme toujours présent, hein, c'est concomitant. Par exemple, l'annonce par le président de la République de la construction de 6 EPR en dehors de tout débat et même en dépit du débat organisé à ce moment-là par la CNDP. Et face à ce mélange d'autoritarisme et de participation affichée, on peut se demander quelles sont et quelles peuvent être les nouvelles stratégies des militants, quelles nouvelles alliances peuvent être créées entre la critique de l'industrie électronucléaire et d'autres luttes environnementales, et selon quelles modalités. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Alors, je vais présenter les trois personnes qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation. Alors, Cézine Topsou, vous êtes historienne et sociologue des sciences, chargée de recherche au CNRS, directrice du laboratoire du Centre d'études des mouvements sociaux au sein de l'EHESS. En 2013, vous avez publié, je l'ai dit tout à l'heure, « La France nucléaire, l'art de gouverner une technologie contestée » au Seuil, suivi de plusieurs articles consacrés à la question nucléaire et notamment à la gestion par les institutions internationales comme l'AIEA et la CIPR des conséquences des accidents nucléaires. Charlotte Mijon, vous êtes diplômée de Sciences Po Lille, impliquée depuis votre vie étudiante sur les questions d'énergie et de climat. Vous avez longtemps été porte-parole de l'association Sortir du nucléaire, pour laquelle vous avez travaillé de 2008 à 2022. Vous avez également été experte relectrice du GIEC en 2020 et 2021. Et désormais, vous avez repris des études en théologie protestante et vous êtes toujours investie dans différentes mobilisations écologiques. Ruth Stegassi, vous avez été productrice pour de nombreuses émissions sur France Culture de 1984 à 2016. De 2001 à 2016, vous avez été la productrice sur France Culture de l'émission Terre à Terre. En 2012, vous avez publié chez Actes Sud « Usurpation contre nature », un recueil synthèse de ces entretiens. Vous vous intéressez désormais aux moyens de revenir à des modes de vie plus autonomes. Et là, j'ouvre la parenthèse qui va nous faire un petit peu tous envie, je pense. Vous vivez encore sur un terrain autonome en eau et en énergie. Vous cultivez vos légumes et vos céréales, vous élevez des poules, vous avez des abeilles et vous avez créé un gervais de sauvegarde de fruitiers anciens. Voilà. Ça met un petit rayon de soleil dans cette journée un petit peu grise. Donc, je commence donc le questionnement pour mes trois intervenantes. Donc Cézine, je l'ai dit il y a quelques instants, vous avez mené des travaux qui font référence sur les mobilisations antinucléaires en France. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que montrent vos travaux sur cette France nucléaire et la façon dont on gouverne une technologie contestée ?
Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. Merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices donc, pour cette chouette journée. Merci beaucoup au témoignage de Margot. Merci à Christine donc, et pour cette table ronde. Bon, il y a beaucoup à dire, évidemment, sur ce qu'est la France nucléaire, ce qui la caractérise. Déjà, d'ailleurs, des choses importantes ont été dites. Peut-être pour prendre certains éléments seulement, en fait, je rappellerai qu'il s'agit, avec la France nucléaire, évidemment, d'un projet complexe militaro-industriel hein, qui se met en place dès 45 avec une accélération sous la 5e République et donc avec une mise en place accélérée de l'arsenal nucléaire français à partir de la fin des années 50, ce qui amène la France et les gouvernants à un passage au nucléaire dit civil au début des années 70, une fois achevé en fait le projet de la bombe, le projet de l'arsenal nucléaire militaire. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, ceci façonne un ensemble de manières de gouverner cette technologie, donc non seulement civile, mais militaro-industrielle, qui, évidemment, se caractérise en premier lieu par un autoritarisme étatique, par un centralisme étatique, dans la prise de décision, par, donc... voilà, un appui sur, comme cela a été dit, hein, un sac toujours réduit hein, d'experts, hein, de sachants hein, qui vont finalement, en fait, toujours écrire la recette de ce que serait l'avenir électrique, mais aussi militaire et industriel, hein, il faut le dire, hein, de la France. Cette France nucléaire, donc, par son caractère militaire-industriel, évidemment, se caractérise par l'importance du secret défense et plus généralement du secret, par l'importance de la manipulation, de la gestion, du contrôle, de la surveillance de l'information, qui va encore à nos jours hein, jusqu'à une surveillance accrue, y compris des productions en SHS, en sciences sociales, d'autant plus lorsqu'elles se produisent à l'intérieur des organismes nucléaires par des chercheurs embauchés par ces organismes nucléaires qui, une fois sortant ou parfois sortant des cadres, des codes institutionnellement dictés, subissent encore aujourd'hui, en tout cas jusqu'à récemment, des licenciements. Ceci concerne aussi, bien sûr, des chercheurs, des collègues d'entre nous qui pouvons parfois être amenés à travailler dans le cadre contrat de recherche auxquels collaborent ou en tout cas parfois sont cofinancés par ces organismes nucléaires, enfin le CEA, EDF, l'IRSN, l'ANDRA, et qui en fait aussi donnent lieu à des nécessités de recadrage, de censure et des disputes, fort heureusement, et puis de sortie de ces dispositifs de la part de ces chercheurs une fois se considérant trop contrôlés, trop surveillés. Donc une surveillance de l'information qui concerne l'ensemble de l'information, enfin je dis c'est l'ensemble de l'information produite autour de cet objet nucléaire, produite particulièrement depuis les années 70, parce que les années 70 c'est évidemment l'époque en fait de la massification de l'effort nucléaire français, c'est l'époque du design de la France nucléaire dans sa versante industrielle. À l'époque d'ailleurs l'idée des gouvernements, c'était de faire un passage tout électrique, tout nucléaire, ce qui finalement n'a pas été achevé complètement, mais ce qui a quand même débouché sur la production d'un pays qui est le plus nucléarisé au monde, par nombre d'habitants. Ayant étudié entre autres cette période, on peut constater en fait l'importance de la propagande nucléaire, du monopole de l'information d'EDF à l'époque, en fait, concernant l'ensemble des enjeux de ce parc nucléaire, donc alors en cours d'implantation. L'importance dans ce cadre-là des mobilisations qui interviennent très rapidement du côté, entre autres, en fait, des scientifiques indépendants, des scientifiques engagés, du GSEN, notamment avec la création du GSEN à l'époque, avec l'implication d'un syndicat comme la CFTT qui va contribuer également en tant que contre-expert pour donc ouvrir en fait ce monopole, combattre ce monopole d'information, à le brisant, en apportant donc une expertise indépendante, ce qui va d'ailleurs servir dans une très grande mesure à l'épanouissement, à l'expansion du mouvement anti-nucléaire qui devient national à partir de ce moment-là, c'est-à-dire avec l'intégration de ces différents acteurs. Donc non seulement, une fois évidemment que les projets avaient commencé à être annoncés, mais vraiment comme l'a fait également le président de la République il y a 2 ans en annonçant les 6 EPR à côté du troisième dose de vaccin d'ailleurs qu'on était tous censés à recevoir à peu près au même moment. Eh bien, à l'époque aussi, en fait, ces projets nucléaires étaient annoncés du jour au lendemain par le gouvernement Messmer sans aucune consultation préalable et si ce n'est en fait notamment deux référendums, on compte deux référendums locaux à l'époque, tout à fait accessorial, mais au-delà, c'était des projets complètement imposés. Mais dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cadre de ces annonces, donc choc des centrales à être implantées dans à peu près toutes les régions de la France, d'abord les riverains évidemment se mobilisaient, s'opposaient. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas eu de mobilisation de riverains. Des mobilisations locales étaient très importantes. Ces mobilisations locales ont fait finalement mouvement anti-nucléaire national, avec la multiplication de divers types d'acteurs, donc dont les scientifiques engagés, dont les syndicalistes, dont des économistes, dont à l'époque aussi, évidemment, et en premier lieu, les collectifs écologistes naissants. En plus des associations de protection de l'environnement, donc comme France Nature Environnement, qui se lancent dans la lutte. Donc voilà, un mouvement anti-nucléaire national qui finalement fait un premier lieu de la lutte contre la propagande de l'État. Un cheval de bataille principal. Deuxième cheval de bataille principal pour ce mouvement, qui ensuite va se poursuivre évidemment dans la durée, c'est la mise en avant de la question démocratique qui n'a jamais disparu du paysage, la question démocratique parce que il s'agit, c'est pas le seul secteur, mais il s'agit d'un secteur qui finalement détermine, façonne entièrement en fait les règles démocratiques ou antidémocratiques, le fonctionnement démocratique d'une société. Et c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est parce qu'il s'agit d'un centralisme technique, technicienne, et qui finalement court-circuite en fait les mécanismes décisionnels démocratisés, que les opposants ont toujours insisté sur la nécessité de revenir au registre démocratique, en fait, mais ce qui n'a, au bout de 50-60 ans, en fait, toujours pas abouti. Hein, on l'a bien vu avec la récente annonce de ces 6 EPR. On l'a vu tout au long des décennies, malgré la durabilité des résistances des citoyennes, militantes, la difficulté à franchir de cette difficulté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a encore une France nucléaire avec des projets imposés, hein, qu'il s'agisse des centrales nucléaires ou qu'il s'agisse d'un centre de stockage comme le CIGEO. Évidemment, cette France nucléaire n'agit pas toute seule. Il faut m'arrêter si je suis trop longue.
C'est Bernard qui est le maître du temps.
J'ai presque rempli, peut-être. Peut-être je vais. Ouais. Ok. La France nucléaire n'agit pas toute seule. Il y a tout le contexte international aussi, évidemment, sur lequel la France nucléaire intervient fortement. Je vais juste évoquer deux éléments. C'est en fait l'un des éléments, ça concerne la minimisation finalement des catastrophes nucléaires à chaque fois qu'il y en a une qui intervient, au niveau de l'invisibilisation des victimes, au niveau aussi, hein, historiquement en fait de l'organisation d'une irresponsabilité des exploitants depuis les années 60, hein, qui finalement contribue à cette invisibilisation, à cette minimisation des catastrophes, on peut y revenir. Et l'autre élément, c'est ça concerne en fait la politique de l'oxymore en fait, qui caractérise très fortement le nucléaire et la France nucléaire à l'échelle nationale comme internationale depuis les années 90 et plus particulièrement depuis cette dernière décennie en ce qui concerne évidemment la lutte contre le changement climatique, hein, comme vous le savez, je vous apprends rien. Ce qui est assez intéressant dans ce cadre-là, c'est comment en fait les organismes nucléaires ou leurs différentes composantes, il peut s'agir des experts encore en fonctionnement ou ceux qui partent à la retraite ou ceux qui se recyclent en fait en tant que consultants, etc., mais qui vont à chaque fois en fait être mobilisés pour faire contrepoids à la société civile en créant en fait des associations, des organisations d'écologistes pro-nucléaires. Et ça, c'est historiquement en fait, c'est-à-dire depuis les années 90, on assiste comme ça à l'émergence de nombreuses organisations en fait, et surtout donc de ce phénomène de montée d'un écologisme pro-nucléaire avec ses consultants, mais souvent c'est vraiment des anciens du CEA, des DF, etc., et qui vont là encore essayer de maîtriser en fait la résistance finalement, c'est-à-dire la volonté citoyenne, militante, écologiste, antinucléaire, qui consiste à finalement essayer de contrebalancer en fait l'euphémisme dont le nucléaire fait toujours l'objet. Dans les années 50-60, c'était de dire du côté des gouvernements français, mais aussi en premier lieu américain, que le nucléaire n'était finalement pas du tout l'atome militaire, c'était vraiment de Atom for Peace, puis après, maintenant, c'est le grand nucléaire écologique. Voilà, je vais m'arrêter là.
Voilà, Bernard, félicite. Donc, merci beaucoup. Vous m'aviez dit que vous n'aviez pas eu la chance de rencontrer Benjamin Dessus. Ce n'est pas le cas donc, de Charlotte et de Russe. Donc, à toutes les deux, je vais poser la même question. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur une rencontre ou un échange que vous avez eu avec Benjamin Dessus, nous dire ce qui faisait sa singularité au sein du monde militant, et puis dire ce que ça dit aussi de Global Chance. Donc, je vous pose la même question à toutes les deux. Merci.
Merci beaucoup, et déjà merci beaucoup à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce colloque. C'est vraiment touchant d'être là pour moi. Benjamin Dessus, moi j'ai à vrai dire eu peu d'occasion de le rencontrer. J'ai échangé avec lui à plusieurs reprises, notamment pour vérifier des chiffres, vérifier des méthodes. Et toujours j'ai rencontré quelqu'un qui était d'une très grande rigueur. Et c'était vraiment salutaire de pouvoir s'appuyer sur une personne comme ça. L'anecdote que je vais vous raconter, c'est pas une rencontre que moi j'ai eue forcément avec lui, mais c'est quelque chose où je pense beaucoup de personnes du mouvement anti-nucléaire ont pu voir vraiment, avoir un aperçu de quel personnage il était. Ça se passait pendant le débat public sur le projet CIGEO en 2013. Pour redonner un peu de contexte, ce débat-là n'était pas sur l'opportunité du projet CIGEO, mais seulement sur ses caractéristiques. Comment vous voulez ce projet et non pas est-ce que vous en voulez ou pas. Le débat dans ce cadre-là, ce n'est pas un outil de la démocratie, mais une espèce de passage obligé et surtout une occasion de faire, entre guillemets, de la pédagogie. Et ce débat avait été boycotté très activement par la majorité des associations, par le réseau Sortir du Nucléaire, par presque toutes les associations de Meuse et de Haute-Marne. Et il avait dû se retrancher en ligne. Et je signale juste que d'ailleurs, dans ce débat-là, trois membres de la CPDP se sont ensuite désolidarisés des conclusions. Et donc, c'est dans ce contexte-là, dans une plateforme en ligne consacrée au coût du projet CIGEO, que Benjamin Dessus intervenait. Et cette plateforme, d'ailleurs, a eu lieu il y a presque 10 ans, jour pour jour. Et à ce moment-là, donc, il y avait un contexte particulier, c'est-à-dire que dans ce... On savait qu'il y avait une évaluation qui avait été fournie dans le dossier, mais dont tout le monde savait qu'elle était obsolète, qui était de l'ordre de 15 milliards et quelques, alors qu'à ce moment-là, circulait déjà une évaluation de la Cour des comptes où il était question de peut-être 35 milliards. Donc, ce débat a lieu, la table ronde, où l'on convoque donc une journaliste qui est chargée de jouer le rôle de l'animatrice et qui croit dur comme fer à faire vivre ce débat, à faire cette pédagogie. Des personnels de l'ANDRA, des personnels donc, du ministère de l'Environnement et Benjamin Dessus comme expert indépendant. Et là, plutôt que de rester sagement dans le rôle de l'expert qui répond techniquement à des questions techniques, Benjamin Dessus met les pieds dans le plat dès le début du débat en disant « Non mais je suis désolé, le dossier est vide, je ne peux pas débattre ». Ça me rappelle ce récit de Lewis Carroll sur la chasse au snark où le capitaine, pour être sûr que tout le monde puisse comprendre la carte qu'il donne, donne une carte blanche à tout le monde, comme ça tout le monde peut la lire. Ce dossier-là, il est vide. Je n'ai pas les informations, donc si vous voulez que je débatte, que je joue mon rôle, donnez-moi un dossier. Et là, on assiste à un échange complètement surréaliste et franchement, j'aimerais bien qu'un metteur en scène s'en saisisse. Il reste le compte-rendu, ça ferait vraiment un parfait script. Où on a la journaliste qui se cramponne à sa mission d'organiser coûte que coûte ce débat pour faire de la pédagogie. Monsieur Dessus, aidez-nous à parler aux citoyens. Et le représentant de l'ANDRA qui indique « Oui, il y a des informations, on peut trouver par une recherche un peu poussée, je peux peut-être vous envoyer des informations. » Alors Benjamin Dessus dit « D'accord, bah écoutez, dans ce cas-là, vous m'envoyez les informations, on refait le débat dans 15 jours quand on a ça. » Il dit « Bah non, je pense que dans 15 jours, ça ne va pas être possible. » Et voilà, et la journaliste, non, mais posez vos questions, ça nous aidera à affiner le chiffrage, ça aidera la... Et voilà, il marche un main dessus, qui reste avec une grande constance, en disant, non, écoutez-moi, c'est pas sérieux, moi je suis un monsieur qui aime travailler, j'aime travailler sérieusement, je ne peux pas apporter de contradiction à un dossier vide, je m'en vais. Et donc, il quitte la table ronde qui était filmée en direct, il y avait à peu près 325 personnes qui y avaient assisté. Et laisse les autres débattre de façon un peu creuse sur ce dossier vide. Pour nos associations, ça a été un phénomène, un épisode un petit peu marquant. On s'est ressaisi aussi de cet épisode pour enfoncer le clou sur ce dossier vide en déposant différents recours en justice par rapport à la fois à la vacuité du dossier, par rapport aussi à cette question surréaliste, la fixation des coûts de CIGEO, parce qu'après coup... on a demandé donc à la commission d'accès aux documents administratifs d'avoir communication de l'évaluation, plutôt de l'évaluation de l'autorité de sûreté nucléaire sur ce chiffrage. Et il est sorti un autre coût qui était bien plus élevé. Et Ségolène Royal, à l'époque ministre de l'Environnement, a voulu couper la poire en deux en faisant un coup de compromis, ce qui est surréaliste. Voilà, donc... Mais pour revenir à Benjamin Dessus... voilà, ça nous dit beaucoup. Je suis un monsieur qui aime travailler sérieusement, comme il le disait. C'est toute la rigueur et l'intransigeance donc, de Benjamin Dessus, et aussi sa capacité à souligner vraiment ce qui dysfonctionne. Et sa conception du rôle d'expert, qui n'est pas seulement produire sagement des analyses, mais aussi souligner pour les citoyens et au nom du sens commun, en fait, ce qui se joue et dévoiler sans complaisance là où la situation est absurde. Et cela dit beaucoup aussi de manière plus générale sur le rôle de Global Chance, à savoir une conception où il n'y a pas d'un côté les experts qui analysent techniquement les enjeux techniques et de l'autre le grand public qui s'exprimait uniquement sur des enjeux, des grands principes émotionnels, éthiques, sans comprendre le sujet. Mais finalement, cette volonté de produire une expertise qui pointe les enjeux politiques avec laquelle peut s'articuler l'action des associations et dont elles peuvent se saisir.
Très bien, merci beaucoup. Donc, même question.
Même question. Alors, moi, je vais évoquer, mais de manière malheureusement un peu floue, une émission qu'on avait faite, enfin deux émissions qu'on a faites avec Benjamin et Bernard. Je pense que d'ailleurs c'était ma première rencontre avec Benjamin. Bernard, j'avais dû le rencontrer déjà une ou deux fois avant. Merci Margot parce que vous avez élargi tout ce que j'avais pu pressentir de ce personnage assez extraordinaire. Et effectivement, ce qui s'est passé cette fois-là, c'était qu'il y avait donc juste Bernard et Benjamin qui venaient parler à terre des questions du nucléaire en lien avec le politique. Et à la fin de l'émission, qui avait lieu en direct, si je me souviens bien, j'ai reçu un coup de fil du ministère, du secrétaire de Nicole Fontaine, qui était à l'époque ministre de l'Industrie, l'Énergie, etc., qui m'a dit « Vous n'avez vraiment pas été très gentil avec la ministre aujourd'hui. » Alors j'ai dit « Mais écoutez, qu'à cela ne tienne, si vous le souhaitez, vous pouvez venir la semaine prochaine débattre avec Bernard et Benjamin. » Et ça a été accepté et elle est venue, la ministre est venue, accompagnée de son directeur de communication. Et là, ça a été absolument saisissant pour moi, parce que d'un côté, il y avait une parole extrêmement nourrie, argumentée, posée, et qui n'était pas du tout dans le tape à l'œil, mais qui était vraiment dans l'énonciation de faits. Et en face, il y avait une ministre qui essayait de rattraper les choses d'une manière, je dois dire, pas très heureuse, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de volonté de les acculer. Je me souviens qu'à un moment, elle leur reprochait le fait que les socialistes n'avaient pas finalement été contre le nucléaire. Et je lui ai dit, mais enfin, c'est pas eux qui sont responsables de la politique des socialistes. Eux, ils ont fait leur travail, qui était d'informer le gouvernement socialiste. Après, le gouvernement, il fait ce qu'il veut. Enfin, voilà. Il y avait... Et puis, surtout, ce qui était terrible, c'était le directeur de communication qui était là et qui parlait des fameuses piscines de la Hague, que c'est pas plus grand qu'une piscine, ou que ça représente un camion de pompiers. Enfin, on imaginait bien le rouge vif. Enfin, c'était absolument grotesque. Et donc, ça s'est assez mal terminé, puisque la ministre est repartie furieuse. Et pas du tout... voilà. Donc, j'ai ce souvenir-là. Et puis, quelques années plus tard, on avait refait une émission qui s'appelait « Le blues de l'expert ». Donc là, c'était « Le blues des experts ». Et justement, Benjamin avait commencé en disant que ce qui était absolument terrible, c'était la façon dont les mots étaient transformés, les expressions étaient transformées, et que ce que eux apportaient, les faits que eux apportaient à la connaissance, devenaient des opinions. On leur répondait, mais ça c'est votre opinion. Alors que non, ils énonçaient des faits indiscutables. Voilà, donc ce sont ça mes souvenirs. Mes premiers souvenirs de Benjamin, il y en a eu d'autres.
Merci.
Donc, merci beaucoup pour ces évocations. Alors, une autre question également, toujours à Charlotte et à Russe. Donc, j'ai évoqué en introduction l'évolution des gouvernements et des organisations nucléaires, ce mélange d'autoritarisme et d'ouverture participative. Est-ce que vous pouvez revenir, l'une et l'autre, sur les évolutions du militantisme, ses difficultés et ses espoirs ? Comment voyez-vous l'évolution militante de ces dernières décennies dans le monde nucléaire ? Est-ce qu'on assiste à une technicisation des questions, à des formes de dépolitisation ? De quel œil voyez-vous les différentes formes de radicalisation militante ? On a eu une discussion sur la radicalisation en préparation de ce travail, auquel on assiste ces dernières années. Et qu'est-ce que ces évolutions produisent ?
Alors, c'est une question qui est très, très large. C'est assez difficile de résumer l'évolution du mouvement antinucléaire ces dernières années. Moi, je ne peux parler que de ma tranche de vie, Bien sûr, on va dire. Mais je vais essayer en pointant, on va dire, à la fois quatre difficultés qui se sont présentées ou se présentent toujours et les réponses qu'a eu le mouvement à ce moment-là et les évolutions qu'on a pu constater. Alors, la première difficulté, c'est ce qui a été évoqué, ce système politique qui est quand même globalement verrouillé, même si au moment de l'accident de Fukushima, on a eu l'impression qu'il y a une petite brèche qui s'ouvrait, mais globalement, ce verrou politique institutionnel, cette foi quasi religieuse dans le nucléaire du côté des élites, qui fait qu'on se retrouve face à un adversaire très lourd, à un front très lourd, à une multiplicité de sujets en plus, que ce soit sur la question des vieux réacteurs, des nouvelles constructions, des nouvelles installations comme CIGEO ou LAG, la piscine de LAG. Ça fait beaucoup à la fois, ça fait des enjeux très très techniques. Et alors même si l'industrie nous aide de temps en temps en se tirant des balles dans le pied, c'est quand même très lourd. Et ça induit un questionnement du côté du mouvement sur les tactiques. Quelle stratégie adopter dans ce cas-là ? Est-ce qu'il faut quand même essayer de jouer le jeu institutionnel ? Est-ce qu'il faut essayer de les coincer techniquement ? Est-ce qu'au contraire, il faut partir sur un terrain beaucoup plus radical ? Est-ce qu'il faut tout casser ? C'est des questions de conflits de stratégie qui s'illustrent aussi dans la question de est-ce qu'on participe ou pas au débat public ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on les bloque ? Et des questions qui, en plus, sont génératrices souvent de tensions. Bon, dans le mouvement antinucléaire, on est un peu le village d'Astérix. On n'est pas nombreux, on est entouré face à un ennemi très lourd et on aime bien s'engueuler entre nous. Ceci dit, moi, ce dont je fais le constat quand même, c'est qu'il y a eu une forme d'évolution et je dirais peut-être de maturité, c'est-à-dire s'autoriser à explorer d'autres modes d'action, comme par exemple agir en justice, que ce soit au niveau pénal, que ce soit au niveau pour bloquer des projets, en se disant on ne gagne pas toujours, mais au moins on fait connaître les choses, on donne une publicité à ce qui ne va pas, et ça permet aussi d'informer. Il y a aussi la compréhension de la nécessité, je pense, d'une plus grande radicalité. Quand je dis radicalité, je trouve qu'on est quand même assez gentillé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les années 70, où il y a eu un tir de roquette sur le chantier de Crémalville. On n'est pas non plus... radicalité, c'est-à-dire ne pas avoir peur de la conflictualité, de la confrontation, de bloquer des choses, d'occuper des terrains, d'occuper, par exemple, même de mettre à bas un mur construit par l'Andra, d'autant plus quand ce mur a été construit illégalement. Et de comprendre qu'il y a des fois, il faut pouvoir s'opposer concrètement. Et surtout, une moindre naïveté, c'est-à-dire une compréhension de la possible et nécessaire complémentarité et articulation des modes d'action. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on participe à un débat public qu'on doit forcément, qu'on est naïf et qu'on croit que tout va être réglé. Mais on sait qu'il y a des dispositifs et une possibilité de jouer avec. Et on sait qu'il est possible de s'articuler, qu'il peut y avoir des gens dedans, il peut y avoir des gens dehors. On sait aussi qu'on ne gagne pas des combats avec une seule arme. C'est-à-dire, je parlais de Bure, c'est une très bonne illustration, ce qui s'est passé, qui a permis de bloquer certaines choses, et en tout cas, au moins, de gagner du temps. C'est cette articulation, en fait, entre d'un côté une occupation de terrain, de l'autre des actions en justice qui ont permis d'obtenir des décisions ou de bloquer des choses, qui ont permis de donner une légitimité aussi à l'occupation, la production d'expertise scientifique par des associations comme Global Chance, un travail médiatique, un travail de fond. Donc voilà, je pense que là-dessus, il y a une certaine évolution du mouvement. Une autre difficulté, c'est la violence institutionnelle, la répression, la criminalisation du mouvement. Même si, là encore, ce n'est pas nouveau, dans les années 70, on l'a vu avec des manifestations où il y a eu des morts. Enfin, on se souvient de Vital Michalon, par exemple. On se souvient aussi des conflits qu'il y a pu y avoir. Vous avez peut-être vu le film « Plogoff, des pierres contre des fusils », donc ça dit bien ce qu'il en est. Toujours est-il qu'on assistait à une répression des manifestations, on a assisté à une criminalisation des militants avec, donc il y a quelques années, cette histoire de constitution d'une association de malfaiteurs qui a touché une douzaine de personnes, voire plus à Bure, avec des personnes qui ont dû subir des gardes à vue de plus de 48 heures, qui ont dû subir un contrôle judiciaire très très lourd, tout ça pour un dossier complètement vide. Et qui ont été interdites de se parler pendant des années, en fait. Et c'est quelque chose qui préfigure, en fait, la répression que connaissent maintenant certains mouvements écolos. Et cette répression, elle a bien pourri la vie de personnes, d'organisations. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'elle a aussi provoqué des vagues de solidarité, qu'elle a aussi provoqué des prises de conscience, qu'elle a aussi... provoquer une réaffirmation d'une dignité dans la volonté de ne pas se laisser écraser. Et la plus belle manif à laquelle il m'a été donné de participer, moi, c'était à Bar-le-Duc. Il y a 2 ans, c'était une manifestation justement devant le procès des personnes qui étaient accusées de participation en association de malfaiteurs. Et il y avait un détournement d'une pièce du dossier où on disait que... voilà, il y avait une personne qui avait un tissu violet à paillettes qui était un signal pour conduire le Black Bloc. Et donc, cette manifestation-là, tout le monde portait du violet à paillettes et c'était magnifique. Et on a dansé dans la rue. Donc, voilà. Une autre difficulté que je voudrais signaler, c'est aussi celle du renouvellement du mouvement qui est aussi historiquement lié à une certaine génération de militants. Et où c'est pas toujours facile de se faire sa place parce que, comme j'ai dit, souvent c'est conflictuel, parce que le nucléaire est un objet qui est difficile à appréhender, qui est très technique. Il y avait une brochure qui était parue à un moment donné qui s'appelait « La foire aux acronymes ». Je pense que ça dit bien ce qu'est le nucléaire avec tous ces sigles dans tous les sens auxquels on comprend rien. C'est un sujet qui est vite plombant aussi. Mais ceci étant, eh bien, il y a quand même un renouvellement du mouvement. Il y a un renouvellement qui vient notamment d'autres modes d'action, qui vient de personnes qui ont pu participer à des mouvements de masse, par exemple en Allemagne, au mouvement Ende Gelände 2, qui en France sont venus et ont fondé un mouvement qui s'appelle Radiaction. Il y a un renouvellement aussi via les luttes de territoire. J'ai beaucoup parlé de Bure et de en quoi ça a été un creuset aussi pour beaucoup de gens, pour découvrir d'autres façons de militer, de s'ouvrir à d'autres choses. Et plus largement, le nucléaire et son monde, on va dire. Il ne s'agit pas juste de militer sur une question très technique où on parle de Becquerel, mais aussi de voir ce que ça signifie en termes de vision du monde, ce que ça signifie en tant que, voilà, que rapport à la société, à l'industrie. Mais il y a aussi des renouvellements qu'on n'attend pas, qui sont liés à des résistances qui sont souvent un peu inespérées, comme par exemple contre le projet de piscine de stockage. Il y a une résistance près de Belleville, dont je pense que certaines personnes dans la salle peuvent témoigner. Il y a une résistance aussi à Lagues, sur un territoire qui pourtant était extrêmement nucléarisé, où on pensait que tout le monde accepterait, et en fait non. Donc, dès que des personnes se sentent concernées dans leur lieu de vie, eh bien, il y a cette résistance. Et il y a aussi un renouvellement du mouvement qui, moi, me fait beaucoup plaisir à voir, qui est celui qui est venu par les luttes écoféministes, et notamment par le collectif des bombes atomiques, qui avait organisé en 2019 un week-end en non-mixité, justement, à Bure. Et cette arrivée du mouvement féministe, enfin, c'est pas une nouvelle, parce qu'il y a aussi toute une filiation qui est assez ancienne, avec par exemple des mouvements comme Greenham Commons dans les années 80. Ça amène aussi d'autres postures, d'autres manières de militer qui font du bien. Enfin, dernière difficulté, c'est la question du défi que représente l'intégration de la question climatique pour le mouvement antinucléaire. C'est-à-dire que, vous l'avez constaté, l'omniprésence de la propagande de l'industrie sur le nucléaire sans CO2, donc le nucléaire solution miracle au changement climatique, l'omniprésence de l'expert présent partout, donc Jean-Marc Jancovici, sur les plateaux télé, sur tous les forums, et on va dire ces hordes de fan clubs qui viennent troller le débat à chaque moment. Le fait que certaines associations soi-disant écologistes pro-nucléaires se saisissent de cet argument, et malheureusement ça marque dans le grand public, et je dois dire aussi ça a provoqué des crispations au sein du mouvement antinucléaire lui-même, entre ceux qui appelaient à prendre au sérieux l'enjeu climatique et une partie du mouvement pour qui parler de climat c'était un peu le cheval de Troie du lobby. Mais là encore, il y a une évolution dans une intégration, vraiment une prise en compte du sérieux de l'enjeu climatique, à la fois la conscience et en fait des arguments qu'on a pu mettre en avant, à la fois la conscience de la vulnérabilité du nucléaire aux phénomènes climatiques extrêmes, le fait qu'on est aidé aussi par des travaux du GIEC, par le fait qu'il y a des travaux sur le 100% renouvelable, par l'ouverture sur les questions d'eau et de biodiversité, sur la question des conflits d'usage, du réchauffement des cours d'eau, par le fait qu'il devient un peu évident aussi que, vu la lenteur des chantiers, le nucléaire ne peut pas être une solution pour le mix électrique de demain. Et je finirai juste en évoquant une action qui a eu lieu il y a quelques semaines devant le ministère de l'Environnement, où il y a plusieurs organisations qui ont muré le ministère de l'Environnement. Et parmi les messages, il y avait « le nucléaire ne sauvera pas le climat ». Ce qui montre qu'on peut s'engager contre le nucléaire, non pas malgré l'urgence climatique, mais bien au nom de l'urgence climatique.
Alors, Charlotte parlait de la difficulté qu'il y avait à traiter de tant de sujets différents quand on est militant, c'est vrai. Moi, j'ai eu la même difficulté en tant que productrice d'une émission hebdomadaire où il fallait parler du nucléaire, mais aussi de la chimie, mais aussi de l'agriculture, mais aussi de la santé, mais aussi, enfin, il y avait de l'économie, il y avait un nombre de sujets absolument phénoménaux. Et en fait, c'était à la fois une faiblesse, parce que ça m'obligeait à effleurer les sujets plutôt qu'à rentrer dedans, mais en même temps, ça me permettait d'avoir une espèce de vision un peu structurelle ou structurale, je ne sais pas comment il faut dire, de ce qui se passait dans les questions environnementales. Et assez rapidement, j'ai compris qu'on me disait à peu près les mêmes choses, qu'on avait les mêmes griefs, quels que soient les sujets. Mais simplement, quand on était un spécialiste de l'eau, on ne savait pas du tout que les mêmes questions se posaient aux spécialistes de la chimie ou aux spécialistes du nucléaire. Et je me suis dit que, en fait, ce qui était important, c'était sans doute que des ponts se fassent entre les différents secteurs des questions environnementales, parce qu'on était face à un système. on n'était pas face à des questions précises qui concernaient un fleuve ou un mode d'énergie, mais on était face à un système qui était en train de mettre quelque chose en place, et c'était véritablement ce système-là qu'il fallait confronter. Alors, on a parlé, et Christine a très bien décrit dans son introduction la façon dont notre société, en particulier, je pense, la société française, sûrement pas la seule, mais la société française est une société de caste. C'est vraiment une société de caste, très cloisonnée. Donc ce cloisonnement, on le retrouvait aussi, je pense, entre les différentes associations. C'est aussi une société extrêmement hiérarchisée. Et nous avons tous plus ou moins intégré cette hiérarchie. C'est-à-dire on a tous le sentiment qu'il y a un au-dessus et un en-dessous. Et le au-dessus, c'est le gouvernement, mais c'est aussi les élites et c'est aussi cette nucléocratie qui se met elle-même en surplomb, mais à laquelle on accorde cette qualité de surplomb, d'une certaine manière. Et en même temps, on est une société qui a été tellement structurée par l'atome qu'on est aussi une société totalement atomisée. Et ça me paraît important à prendre en compte quand on réfléchit à la manière, à la stratégie qui devrait être celle des associations, ou qui a été en partie celle des associations. Moi, j'ai commencé cette émission au tournant du siècle, c'est-à-dire c'était en septembre 99. Je trouve qu'en 24 ans, les choses ont quand même énormément évolué, et pas uniquement dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, certes, mais ça, on est quand même assez nombreux à le constater, mais il y a aussi des avancées qui me paraissent intéressantes. D'abord, peut-être pointer du doigt des choses qui m'ont perturbée, gênée, chagrinée dans cette période, dans ces 25 ans. Christine parlait tout à l'heure de la nécessité de participation et en même temps du danger et du risque qu'il y a à cette participation. Je trouve qu'à l'époque du Grenelle de l'environnement, il y a eu une espèce de fracture qui s'est faite. C'est-à-dire que pour une fois, le gouvernement disait aux associations « venez, on va discuter, ça va être formidable ». Et en fait, ça a été justement à cause de cette hiérarchisation, je pense, entre autres, ça a été un moment où les associations ont été tellement heureuses d'être sollicitées qu'elles y ont cru. Et qu'elles ont dit, ça y est, on est enfin entendues, ça y est, on peut enfin parler, on a enfin... Et c'est en ça que je trouve que c'est important de réfléchir à cette notion de hiérarchie. Oui, ils étaient entendus, ils étaient écoutés, on va dire, par les castes supérieures, mais en fait les castes supérieures n'avaient absolument ni l'envie, ni l'intérêt, ni aucun intérêt à prendre compte de ce qui leur était dit. Parce que de fait, ils savent très bien ce qu'ils font, quoi. Je veux dire, ils font pas ça à l'insu de leur bonne volonté ou de leur conscience. Ils savent exactement ce qu'ils font. Et c'est là que je pense qu'il y a eu un petit tournant qui a marqué une espèce d'affaiblissement du milieu associatif. Au tournant c'était vers les années 2010, il y a eu une espèce de creux de la vague, enfin moi je l'ai senti comme ça, avec à la fois une certaine naïveté de la part des associations et en même temps, je sais pas, une volonté trop forte de s'adresser aux puissants, ce qui n'était pas nécessairement la chose à faire. Mais dans le même temps, c'est là que je ne rejoins pas tout à fait Charlotte. Dans le même temps, il y avait de nouvelles luttes qui se mettaient en place avec des personnes complètement différentes. Et l'expression qu'elle a employée, le nucléaire et son monde, elle est de cette époque-là. Elle est de cette époque-là, mais elle n'est pas nécessairement du milieu nucléaire. Elle est, c'est sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qu'on a entendu parler pour la première fois du nucléaire et son monde. Et c'est dans ces milieux-là qu'on a entendu parler du nucléaire et son monde. Et il se trouve que sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, se passait quelque chose de tellement important et de tellement inquiétant que pour le gouvernement que, je dois vous l'avouer, les seules fois où, à France Culture, Radio France, on a essayé de me censurer, c'était pas sur le nucléaire, c'était sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. À chaque fois que j'ai parlé de Notre-Dame-des-Landes, ou que j'ai fait parler des gens de Notre-Dame-des-Landes, j'ai été convoquée immédiatement par la direction qui a essayé de me faire des coups fourrés. Quand ils étaient au courant à l'avance que j'allais faire l'émission, ils essayaient de me la faire retirer. si je l'avais quand même faite malgré eux, eh ben, ils essayaient de m'obliger à faire un truc qui allait dégommer Notre-Dame. Enfin, c'était vraiment hallucinant, quoi. Alors que sur le nucléaire, bah, je pouvais faire parler des gens sur le nucléaire tant que je voulais, c'était vraiment pas un problème. C'est pas très sympa de vous dire ça à vous, ici. Mais, de fait, moi, je pense que la lutte sur le nucléaire est une lutte qui a énormément compté. Et on s'en rend compte aujourd'hui parce que, après Notre-Dame-des-Landes, est arrivé, en effet, Bure. Et que Bure est aujourd'hui le terreau le plus fertile sur toutes ces transversalités qui me paraissent essentielles pour arriver à combattre le nucléaire et son monde. C'est-à-dire que, depuis quelques années, il y a... Sur le modèle de Notre-Dame-des-Landes, c'est pour ça que j'ai d'abord parlé de Notre-Dame-des-Landes, il y a un investissement des lieux. C'est-à-dire qu'on investit le lieu du conflit, on s'installe et on vit sur le lieu du conflit. Ça, c'est quelque chose qui, pour les autorités, enfin pour les instances gouvernementales, est extrêmement perturbant. Et à l'intérieur de ces lieux qu'on investit, qui sont des lieux de conflit, on invente d'autres modes de vie. On sort de l'argent, par exemple. On sort du système monétaire. Tout ce qui se fait, c'est sous forme de troc, etc. On crée des solidarités. Vous avez aujourd'hui, à Bure, vous avez évidemment des échanges, des mutualisations de matériel agricole et de choses comme ça, mais vous avez aussi une auto-école autonome. Vous avez des bars qui sont des bars ouverts, pas uniquement pour les militants, mais qui sont des bars installés dans les villages pour avoir le lien avec les habitants, pour essayer de... dépasser, de surmonter la peur qui est due au fait qu'ils ont des crêtes roses et qu'on ne sait pas si c'est des garçons ou des filles, et ils parlent de choses comme le nucléaire. Enfin, on essaye que la vie entière soit constituée des éléments de la lutte, et la lutte, c'est une lutte totalement transversale. A eu lieu cet été à Bure, ça s'appelait les rencontres paysannes et rurales qui ont réuni plus de 1000 personnes sur lesquelles il était question de thèmes agricoles, mais aussi de thèmes nucléaires, mais aussi de thèmes... de tous les thèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Aussi de thèmes queer. Alors, ça peut nous paraître bizarre, ou ça peut paraître bizarre à certains. Mais il n'empêche que je pense qu'aujourd'hui, les militants, les jeunes militants, qui ne sont pas du tout du même monde, ont compris que c'était effectivement un monde entier, un système entier qu'il fallait faire basculer, et que ce n'était pas en trouvant la bonne personne et la bonne oreille qu'on allait réussir à faire changer les choses. Il y a un conflit nécessaire, parce que nous ne sommes pas tous d'accord, et ce n'est pas juste qu'ils n'ont pas encore tout compris, et que quand on va leur expliquer, ils vont dire « Ah ben oui, finalement, excusez-moi, j'arrête de faire du nucléaire ». Non. Jean Covici, dont parlait Charlotte tout à l'heure, est un bel hommage au fait qu'il y a eu une montée en puissance du discours anti-nucléaire. Parce qu'on ne peut plus se contenter de parler aujourd'hui de camions de pompiers et de piscines nucléaires. On est obligé de sortir une meilleure carte, quoi. On est obligé de sortir quelqu'un de plus malin. Et Jean Covici, il est nettement plus malin, effectivement. Et il est plus malin parce que... il est plus malin, même si vous n'êtes pas d'accord. D'accord, j'arrête.
Ça sera un sujet de débat.
Alors, Bernard nous dit 5 minutes, c'est ça ?
5 minutes pour l'ensemble. On s'arrête dans 7 minutes.
Oh, d'accord, wow. D'accord.
Oui, mais on a presque...
Donc voilà, écoutez, tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais dire pour revenir à Bernard et Benjamin, c'est que pour moi, leur qualité essentielle, c'est qu'ils sont des passe-murailles. Voilà.
Merci beaucoup. Je donne la parole rapidement, effectivement, parce que Bernard me veut, on n'a plus que quelques minutes, mais je pense que ça suffit. Césine va vraiment, conclure de son point de vue d'historienne et de sociologue sur ces sujets. Merci.
Bah déjà, énormément de choses très importantes ont été dites, y compris même sous forme d'analyse sociologique que j'ai pas à faire là maintenant. Je pense que c'est très important effectivement qu'on s'en rende compte d'un côté, en fait, la nécessaire complémentarité de l'action dont parlait Charlotte Mijon, c'est-à-dire toute l'histoire, en fait, de la lutte antinucléaire en France, le monde, c'est-à-dire c'est dans l'hétérogénéité quand même qu'on gagne. Et c'est parce que la lutte est hétérogène, pardon, qu'elle devient nationale, qu'elle devient forte, et que, voilà, ce qui est en fait le gage, la garantie qui permet d'éviter de tomber dans la co-gestion, par exemple. C'est-à-dire, le problème, ça n'est pas qu'il y ait une discussion experte sur le sujet pluraliste, ce qui est absolument nécessaire, mais le problème, c'est en fait plutôt d'éviter que ça devienne la seule forme de discussion, parce que c'est précisément ce que veulent imposer depuis les années 70, en fait, les gouvernants, les nucléocrates, les décideurs et décideuses politiques. Donc ça, c'est, je pense, un premier point important. Effectivement, l'idée de jouer le jeu de exit versus loyauté, hein, comme dirait Albert Hirschman, dans ce type de dispositif participatif, mais aussi plus généralement dans la manière de concevoir l'action et de, pourquoi pas, de se la redistribuer. Ça, c'est déjà un point, je pense, extrêmement important. L'autre point, ça concerne effectivement, hein, comme cela a été souligné, en fait, le nécessaire saut générationnel désormais, même rupture générationnelle, hein, dont il faut prendre acte. Je pense que c'est un débat qui est interne à la lutte depuis ces dernières années et qui a été notamment actualisé avec la lutte, l'occupation à Bure, mais aussi effectivement ce renouveau générationnel qu'on a observé notamment sur ce terrain-là, mais qu'on voit bien qu'il est nécessaire, qu'il est important de répandre en fait à l'ensemble des guichets de lutte, hein, si je puis dire, y compris Global Chance, puisque aujourd'hui on est là pour parler de Global Chance aussi. Et on voit bien depuis ces dernières années, grâce aussi à des institutions comme la FPH, la chose est en cours, mais je pense qu'il y a besoin vraiment d'un renouveau générationnel maintenant, c'est-à-dire qu'en tant qu'historienne, sociologue, ayant aussi interviewé pas mal de mi-temps, c'est vrai que c'est à la fois extrêmement touchant de voir la persévérance, la force, en fait, des personnes qui ont assuré, par exemple, le rôle de l'expert indépendant dans le secteur. À la fois, c'est dommageable, en fait, de voir qu'en fait, ça ne se renouvelle pas suffisamment. Enfin, c'est pas pour dire qu'il ne fallait pas qu'il reste, mais il reste parce qu'il n'y a pas eu de renouveau suffisant, en fait. Il faut qu'il reste, mais il faut que ça s'équipe davantage, sans doute, parce que sinon on risque, en fait, de se retrouver par un vide de ce côté, par une absence, par exemple, d'un collectif comme le GSUN, hein, qui risque de s'éteindre faute de pouvoir. Je pense que la question de la criminalisation de l'action nucléaire n'est pas du tout à prendre à la légère. Et là-dessus, c'est quand même assez frappant de voir combien le caractère démesuré, en fait, de la prise en charge des luttes ou des opposants frappe à l'œil, c'est-à-dire avec ce procès des entre guillemets malfaiteurs de nucléaire à Bure, on a quand même, il faut le dire, hein, avec nos impôts, 24 000 de pages de documents, de transcription d'écoute téléphonique, en fait, qui concernent 7 personnes. Moi, j'ai pas forcément envie de financer ça, d'une part, et d'autre part, c'est le signe que l'État, à nouveau aujourd'hui, se trompe d'ennemis, y compris autant de cris d'alarme des opposants, des militants, des citoyens, pour dire, d'un côté, il y a une lutte des opposants, des Français qui disent, on ne veut pas de ce projet CIGEO parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 1000 ans, 10 000 ans, comment ça va fuiter, est-ce que les sociétés vont pouvoir se transmettre de génération en génération, les signaux de risque, ça va fuiter, et l'État comprend ça comme l'antinucléaire, ça fuite. Donc, je vais contrôler l'antinucléaire. C'est plutôt que de contrôler, de gérer, de faire attention à ce qui est demandé, l'État met les moyens pour plutôt surveiller l'antinucléaire. On lui demande pourtant de surveiller, en fait, ce qui fuite, c'est-à-dire les radioéléments. Donc, déjà là-dessus. Et puis, peut-être, deux derniers points, c'est, on a parlé des bufurqueurs, évidemment, en référence à des étudiants ou des nouveaux jeunes diplômée de AgroParisTech, je dirais que c'est le nucléaire elle-même, c'est la technique elle-même est aussi devenue, c'est, du moins ces derniers temps, mais depuis même plus longtemps, un bifurque en soi, parce que c'est la technique elle-même qui se dénonce, en fait, depuis assez longtemps maintenant. On le sait, Bernard l'a réévoqué, ces centrales nucléaires qui n'arrivent plus à se faire implanter, à s'implanter à cause des problèmes, des défaillances techniques, on l'a vu en Finlande, à Flamanville, ces géants du nucléaire qui sont tout sauf géants, puisqu'ils font quand même régulièrement faillite, puis après il faut les sauver, chaque fois il faut que l'État les sauve, ces projets d'utopie technologique enfin, qui tombent un par an, l'un des exemples récents c'est la génération 4, donc la technique elle-même se dénonce, c'est-à-dire que, et puis sans parler des tabous, des mythes, notamment relativement à la capacité, mais en effet l'incapacité du nucléaire évidemment pour lutter contre le changement climatique. C'est-à-dire le fait que ça ne sera jamais possible, hein, comme ça a été dit tout au début, d'y arriver pour des raisons matérielles, d'implantation. Mais tout de même, ces mythes se maintiennent. Et en même temps, la technique se dénonce. C'est-à-dire, il y a quelque chose, je pense, sur lequel il faut insister pour casser ces mythes-là, pour mettre en avant, faire davantage de la publicité sur le fait que le nucléaire est devenu un bifurqueur, en fait, en soi, à côté de tous les bifurqueurs et bifurqueuses futures hein, dont on a besoin pour se rassembler, pour raviver la lutte. Et là-dessus, effectivement, je pense que l'occupation de type zadiste ou abur pour faire barrage désormais au projet est absolument centrale. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'en fait, se passe sur place hein, des procès sur procès contre les militants. C'est-à-dire on en compte plus de 50, en fait, il n'y a pas eu qu'un seul. Et voilà, cette tendance à la criminalisation, parce que l'État a bien compris qu'effectivement, ce n'est pas les débats publics de la CNDP qui l'empêchent d'implanter quoi que ce soit, d'autant plus que les décisions ont la plupart du temps été prises avant la mise en place de ces débats. Presque, en fait, systématiquement, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'en fait, il peut y avoir un blocage des projets, mais désormais, quand en fait les opposants osent finalement se poser contre ces projets-là. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà suffisamment long.
Merci beaucoup. Je passe la parole à la table ronde suivante avec Sophie Attali.